Livre cinquième. Au cottage. Chapitre premier. Émilie souffre. Miss Rieselmoser, à qui avait été confiée la garde de la résidence d'Émilie, était en train de prendre sa tasse de thé lorsqu'à sa vive surprise, elle entendit le bruit d'un cab qui s'arrêtait devant la porte. Puis un violent coup de sonnette retentit. Elle ouvrit et se trouva en face d'Émilie. Un seul regard jeté sur ce jeune et cher visage suffit à la brave domestique. « Bonté divine ! » s'écria-t-elle. « Qu'y a-t-il encore ?» Émilie ne lui répondit pas un mot. Elle la conduisit en silence dans la chambre où était morte Miss Laetitia. Sur le seuil, Miss Rieselmoser eut une certaine hésitation. « Pourquoi m'amenez-vous ici ? » demanda-t-elle. « Pourquoi, Miss Rieselmoser, vouliez-vous m'interdire l'entrée de cette chambre ?» dit Émilie. « Moi, Miss, j'ai voulu vous interdire l'entrée d'une chambre ?»« Oui, quand je suis revenue de pension ici pour soigner ma tante. »« Ah, vous vous souvenez à présent ?» Elle prit la main de Miss Rieselmoser et, la regardant en face, « Est-il vrai, je vous le demande ici même, où votre maîtresse a rendu le dernier soupir ?» « Est-il vrai que vous m'ayez trompé au sujet de la mort de mon père ?» Il y eut un mortel silence. Miss Rieselmoser tremblait affreusement. Sa bouche s'ouvrait, laissant pendre la lèvre inférieure. Ses yeux, dilatés par la terreur, firent le tour de l'appartement. « Est-ce son fantôme qui vous a dit ça ? » murmura-t-elle. « Où est-il, son fantôme ?» « Miss, la chambre tourne, tourne, l'air me siffle dans les oreilles !» Émilie s'élança pour la soutenir. Mais la vieille femme, toute chancelante et se cramponnant à sa chaise, criait, en levant ses grandes mains osseuses avec un geste d'égarement, « N'approchez pas, n'approchez pas, vous me faites peur !» Émilie recula de quelques pas. Miss Rieselmoser essuya la sueur froide qui lui inondait le visage. « Vous parliez de la mort de votre père, » dit-elle. « Eh bien quoi ? Votre père, on sait cela ? Votre père est mort subitement. »« Subitement, oui, mais de quelle mort ?»« De quelle mort ?» répéta machinalement la pauvre femme. « Mon père est mort assassiné dans l'auberge de Zealand. » Elle s'était tournée, en parlant, vers le lit, comme si elle s'adressait à celle dont elle avait entendu là les demi-révélations arrachées par le délire. Ce lui fut une sensation odieuse. Elle ne put la supporter et se précipita hors de la chambre. En rentrant au salon, Émilie aperçut le portrait de son père, suspendu par Miss Laetitia au-dessus de la cheminée. Elle tomba épuisée sur le canapé et enfouit sa tête dans les coussins, sans lutter plus longtemps contre les larmes. « Oh, mon père, mon cher, bon, tendre père, mon premier, mon meilleur ami, assassiné ! Oh Dieu, où était votre justice quand vous avez laissé commettre un tel crime ?» Une main se posa sur son épaule, une voix dit « Taisez-vous, enfant, Dieu sait ce qu'il fait !» Émilie leva la tête, Miss Rieselmoser l'avait suivie et se tenait debout devant elle. « Ah, ma pauvre bonne !» dit la jeune fille, dont le cœur se fondait. « Pardonnez-moi, je vous ai effrayée tout à l'heure. »« C'est passé, ma chère Miss. Je suis vieille et ma vie a été rude. Une vie rude vous en apprend long. Aussi, je ne me plains pas de la mienne. » Tout à coup, le frisson la reprit. « Me croirez-vous, j'ai prévenu ma défunte maîtresse de ce qui arrive aujourd'hui. » Oui, devant le cercueil de votre père, je l'ai prévenu. Cachez la vérité si ça vous est possible que je lui ai dit, mais un jour, notre enfant saura que nous l'avons trompé. L'une de nous vivra assez pour voir ce jour-là. Et c'est moi qui ai vécu. Je n'ai pas pu me sauver dans la tombe. » Des larmes lentes coulaient sur ses joues. Émilie lui prit affectueusement les mains. « Remettez-vous, » lui disait-elle avec douceur. Miss Rieselmoser s'apaisa, en effet, peu à peu. « Si j'osais vous demander, » reprit-elle timidement, « comment donc avez-vous fait la terrible découverte ? Est-ce le hasard ou si quelqu'un vous a dit. » Mais déjà la pensée d'Émilie était loin de Mistress Elmoser. Elle quitta le canapé, pressant de la main son cœur, qui battait à coups violents et douloureux. « Le premier devoir de ma vie, dit-elle, je pense au premier devoir de ma vie. Je suis calmée à présent, je suis résignée. Mais hélas, jamais, jamais plus, la mémoire de mon bien-aimé père ne pourra être ce qu'elle a été jusqu'ici. Désormais, ce qui dominera tout, c'est l'atroce souvenir du crime. Ce crime n'a pas été puni, l'homme a échappé au juge. Ah, si j'avais su, il ne m'aurait pas échappé à moi. Il ne m'échappera pas. » Elle s'interrompit. Ses yeux s'arrêtèrent sur la vieille servante. « Que me disiez-vous donc? Ah, vous vouliez savoir comment j'ai tout appris? Ceci me ramène à Netherwoods. Monsieur Alban Morris. » Mistress Elmoser se recula, effarée. « Oh, vous n'allez pas dire du mal de lui qui a été si bon pour moi, le meilleur des hommes. Je le croyais tel, je ne le crois plus. C'est vous qui dites une pareille chose, vous? Oui, moi. Il avait toute mon affection et il s'est associé au mensonge, et de quelle façon? Dans quel moment? Il m'a entendu parler avec insouciance d'un journal qui racontait le meurtre de mon père, et il n'a pas ouvert la bouche pour arrêter cette profanation. Tenez, ne parlons plus de cela. Revenons, revenons par la pensée à Netherwoods. Un soir, Francine de Sors vous a effrayé par je ne sais quel récit, et vous vous êtes enfui au jardin. Tenez-vous donc tranquille. À votre âge, faut-il que je vous donne l'exemple du sang-froid? C'est que, pardon, miss, je voudrais vous demander, où se trouve-t-elle en ce moment, Francine de Sors? Elle est encore à la villa que je viens de quitter. Et où ira-t-elle ensuite? Est-ce qu'elle retournera chez Miss Ladd? Je le suppose, mais quel intérêt peut avoir pour vous ce que fait ou ne fait pas Miss de Sors? Je ne vous interromprai plus, miss. C'est vrai, ce soir-là, je m'étais sauvée dans le jardin. Et sans doute, elle nous y aura découvert, Monsieur Maurice et moi. Dans l'obscurité, comment a-t-elle pu faire? Elle a été guidée par l'odeur de la fumée de tabac. Elle connaissait le fumeur. Elle l'avait vu ce matin même causer avec vous. Et tout ce que vous vous êtes dit, elle me l'a répété. Ah, n'est-il pas bien cruel de devoir à la méchanceté d'une fille haineuse ces révélations sur la mort de mon père, alors que vous, ma vieille amie et l'homme qui prétendait m'aimer, vous étiez d'accord pour me laisser dans l'ignorance? Ce sont là des paroles bien amères, miss. Ce sont des paroles justes. Non, elles ne doivent pas être justes pour Monsieur Maurice. Elles ne sont pas justes pour moi. Dieu sait que si votre tante m'avait écoutée, vous auriez tout su. Je l'ai priée, suppliée, je me suis mise à genoux, je l'ai avertie, comme je vous disais tout à l'heure, que ça finirait mal. Rien n'y a fait. Est-il besoin de vous rappeler à quel point Miss Laetitia était volontaire et opiniâtre? Elle m'a donné le choix entre mon congé immédiat et définitif et le silence. J'ai cédé. Pas une autre femme qu'elle n'aurait pu me faire plier. Je suis obstinée aussi, miss, vous me l'avez dit souvent. Mais l'obstination de votre tante l'a emportée sur la mienne. Je l'aimais trop, je ne pouvais pas lui dire non. D'ailleurs, si vous me demandez à qui revient la première idée d'un mensonge, je vous dirai que ce n'est pas à votre tante. On l'y a poussé en l'effrayant à votre sujet. Qui cela? Votre parrain, le grand chirurgien de Londres, qui venait si souvent chez votre père. Sir Richard? Sir Richard, c'est bien ça. Il a déclaré qu'avec votre santé chancelante, il ne répondait pas des suites d'une telle secousse pour vous. Dès lors, il a fait tout ce qu'il a voulu. Après avoir gagné Miss Laetitia, qui l'accompagnait à l'enquête, il a gagné le coroner et les journalistes. Il a veillé à ce que le nom de votre tante ne parût point dans les journaux. Il s'est chargé du cercueil, de l'enterrement, il a écrit le certificat. Il n'y avait que lui, lui. Tout le monde obéissait au doigt et à l'œil. Pensez donc, le fameux médecin. Émilie reprit. Mais les domestiques et les voisins ont sûrement hasardé quelques questions sur cette mort, sur ce meurtre ? Des centaines, mais qu'est-ce que ça faisait à Sir Richard ? Personne ne bronchait devant lui, sans compter que la chance le favorisait. D'abord, pour commencer, un nom qu'on voit partout. Qui est-ce qui pourrait démêler votre pauvre père des milliers d'autres James Brown ? Ensuite, la maison et les terres revenaient à l'héritier mâle, comme ils appelaient le cousin avec qui votre père s'était brouillé. Cet héritier avait amené ses gens avec lui, des étrangers, et bien avant que vous eussiez quitté vos amis, la maison était vide de tous les vieux domestiques, forcés de se placer où ils avaient pu, très loin souvent. Sous ce rapport, nous étions bien tranquilles. Pourtant, ma conscience me tracassait. Sitôt que je vous ai vu rétabli, je suis revenu à la charge près de Miss Laetitia. Il n'y a plus de rechute à craindre maintenant. Dites-lui la vérité bien doucement, mais dites-la-lui. Voilà ce que je disais. Mais votre tante vous aimait trop, elle n'avait pas le courage de vous causer une telle douleur. Cette fois, c'est par les larmes qu'elle m'a vaincu, et aussi en me rappelant quel homme impressionnable était votre père, si impressionnable que le chagrin de la mort de sa femme avait déterminé une fièvre cérébrale. « Émilie lui ressemble, disait-elle, vous-même en êtes frappée. Elle a la constitution nerveuse, la sensibilité maladive de son père. Avec tous les ménagements imaginables, nous pourrions lui porter un coup dont elle ne se relèverait pas. C'est comme ça que ma maîtresse me parlait, Miss, et peu à peu, je me suis prise des mêmes terreurs. Ah, ma chère Miss, blâmez-moi, c'est justice sans doute, mais n'oubliez pas tout ce que j'ai souffert. J'ai fui le lit d'agonie de ma pauvre maîtresse parce que ça m'effrayait de penser que son délire vous ferait peut-être tout deviner. J'ai vécu avec l'appréhension des questions et des reproches que vous pourriez m'adresser. Regardez ce que je suis devenue !» La pauvre femme cherchait son mouchoir, mais sa main tremblante s'embarrassait dans les plis de sa robe. « Je n'ai seulement pas la force de m'essuyer la figure, » dit-elle faiblement. « Oh, tâchez de me pardonner, Miss !» Émilie avait passé ses bras autour du cou de la vieille. « C'est à vous de me pardonner, » lui dit-elle, les yeux pleins de larmes. Pendant quelques minutes, elles demeurèrent ainsi, immobiles et silencieuses. À travers les fenêtres ouvertes donnant sur le petit jardin, leur venait un son à peine perceptible, celui du frémissement des feuilles qu'agitait la brise. Soudain, ce silence fut troublé par le bruit aigre de la sonnette. Toutes deux tressaillirent. Le cœur d'Émilie battait avec violence. « Qui cela peut-il être ? Dirais-je que vous ne recevez personne ? Demanda Mistress Almother en se levant. « Oui, oui !» Émilie entendit la porte s'ouvrir, un bruit de voix dans le corridor. Mistress Almother reparut. Comme elle ne disait pas un mot, ce fut Émilie qui lui adressa la parole. « C'est une visite ? Oui, Miss. Avez-vous dit que je ne veux voir personne ? Je ne pouvais pas lui dire ça. Et pourquoi ? Ne soyez pas dure pour lui, ma chère maîtresse. C'est Monsieur Alban Maurice. »